qu'est-ce que c'est bon,
mais
ça.
Qu'est-ce que c'est bon.
Casser l'œuf en deux, de voir couler ce jaune, c'est de l'amour.
En fin de bouche, on est cueilli par une petite acidité.
Europe 1, 11h30.
Ça va, c'est la saison, ça.
Oui, ça, c'est bien.
J'ai eu chaud aux fesses. Hein.
La table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Amis de la table, bonjour. Alors après une semaine orageuse, nous voilà réunis pour le meilleur du bon. Vous le savez, la table a le pouvoir de rassembler, hein, plus que jamais. Eh bien c'est ce que nous allons faire jusqu'à midi et demi. On va casser la croûte du pain au levain pour comprendre son succès et puis les mystères de la fermentation. On vous emmène aussi en Provence, récolter la capre. Ce bouton vert donne du relief à la cuisine méditerranéenne, souvent méconnue et mal appréciée, mais on va essayer de vous faire changer d'avis sur le sujet. Et puis nous allons goûter aussi à la belle cuisine de Mohamed Cheikh. Le vainqueur de Top Chef sera des nôtres et je peux vous dire qu'on se réjouit. Eux aussi sont des nôtres, voici mes bons vivants du jour. Nature, complexe, tannique, pétillant et la corde des vins à son humeur, c'est Miss Glouglou, Ophélie Neyman, pour les intimes que vous pouvez lire dans le journal Le Monde également. Bonjour Ophélie.
Bonjour Laurent.
Ça va bien?
Ouais, super.
Après avoir goûté de beaux flacons pour établir le palmarès du guide de la revue du vin de France, il est à l'eau, figurez-vous,
non,
aujourd'hui.
Non, non.
Ah bah j'ai vu, c'est de l'eau, là.
Oui, oui, pour l'instant.
C'est transparent. Hein. C'est Olivier Pouls. Bonjour Olivier.
Mais bonjour, mais ne vous inquiétez pas, je vous ai prévu quelque chose à boire pour tout à l'heure.
Oui, on va faire une petite dégustation de jolis rosés. Vers midi moins le quart, je vous le disais, Mohamed Cheikh, vainqueur de Top Chef, sera là pour le plat du jour. Et je peux vous dire que pour l'avoir goûté, c'est un plat de compétition. Voilà, à table les amis. Alors, petit rituel, quel est votre goût de la semaine? Posez-vous hein, la question à la maison, en voiture, en écoutant le podcast. Je commence par vous, Ophélie.
Eh ben moi, j'ai fait deux super restos. Ça s'appelle Goguette et ça s'appelle Grand Cœur. Et les deux sont lancés par Julien Foin. Donc en fait, mon goût de la semaine, c'est Julien Foin, bravo. Et notamment, bon, pour les plats, mais surtout la carte des vins. Mais quelle carte des vins incroyable! Parce qu'elle est pointue, mais accessible à tous. C'est pas trop cher, la bascule des prix est pas du tout honteuse. Et alors vraiment, c'est le fin du fin des vins. Bravo, bravo, j'ai adoré.
Julien Foin, ancien journaliste culinaire, de ancien
Régal,
rédacteur
exactement.
En chef de Régal, effectivement, qui est passé de l'autre côté.
Qu'a lancé Jaja, qu'a lancé Glou. Donc c'est vrai qu'on le connaît vraiment pour la dimension vin. Mais oui, c'est très parisien. Venez
voilà.
À Paris.
Mais c'est bon, mais quand on visite Paris, ça fait partie des tables où on peut aller manger, bien sûr. Votre goût de la semaine, Olivier?
Eh bien, je ne voudrais pas vous inquiéter, mais il semblerait que les derniers rapports nous prédisent un avenir pas très rose en matière de ressources, notamment pour nourrir tous les habitants de la planète.
Vous me demandez de quel genre de rapport vous parliez?
Non, non, des rapports, notamment des scientifiques qui, malheureusement, tirent un peu la sonnette d'alarme. Et les prévisions les plus noires nous disent que d'ici à deux générations, il n'y aura plus grand-chose à manger sur Terre. Et donc, je me suis penché sur une association qui s'appelle Less Save the Planet, qui est une association française, lancée par Fadi Abou, qui est un cuisinier libanais à Paris, qui a agrégé tout un nombre de chefs. Et leur idée n'est pas de faire du misérabilisme ou en tout cas des prédictions noires, mais d'essayer de faire changer quelques comportements. Alors c'est très concret, il y a des recettes, il y a des astuces de chefs pour manger moins, mieux, plus lentement, peut-être aussi plus tranquillement.
Bon alors mon goût de la semaine, il est éco-responsable. Pour le coup, ce sont les petits farcis de Mathias Dandine, un chef que j'ai découvert en Provence. Je fais des allers-retours entre Paris et la Provence en ce moment pour tourner les émissions d'été de TF1. Mathias Dandine est un chef que j'ai découvert, il est à Gemenos, ça s'appelle la Magdelaine, c'est un joli mas provençal, il a une étoile d'un côté dans son restaurant gastronomique, il a un bistrot de l'autre et il fait les petits farcis de sa grand-mère Victoria et je peux vous dire que c'est de la bombe ces petits farcis. Voilà, courgettes, poivrons, l'oignon qui est fondant comme il faut avec une farce bien moelleuse à l'intérieur. Il fait aussi une sèche qui est absolument divine. Voilà, c'est mon goût de la semaine, c'est celui de Mathias Dandine et ses petits farcis à Gemenos dans les Bouches-du-Rhône. Allez, c'est l'heure d'aller au marché les amis. On va prendre l'air du large direction le marché de Royan, en Charente-Maritime. Alice Foss de la rédaction vous a demandé quels étaient vos produits de la mer préférés en cette belle région.
Je vais prendre quelques huîtres, des numéro 3. Trois douzaines, ça sera pas trop. Hein.
Allez.
J'ai pris des bigorneaux de Royan, des crevettes grises, d'ici toujours, des bulots.
J'ai acheté des soles, mais des soles brunes, pas des soles blondes, parce que j'aime pas les soles blondes.
Je vais les faire tout simplement
à la poêle, avec un petit peu d'huile d'olive, et le faire cuire tout doucement.
Alors moi j'ai acheté un maigre, pour le manger simplement grillé, peut-être avec une petite mayonnaise. On n'est pas de la région, mais je connais le maigre depuis octobre.
Et c'est meilleur qu'un bar.
Effectivement, c'est une chair plus tenue. Non mais c'est très bon.
Merci.
J'ai acheté des pommes de terre de la région pour accompagner le poisson.
J'ai acheté du seto, le poisson local. Je le mets juste à la poêle avec un petit peu d'huile de tournesol et je fais juste aller-retour.
Nous avons acheté des moules. On est au bord de l'océan, donc j'ai envie de dire, c'est un produit noble, la moule.
Passez une bonne journée, messieurs, dames.
Merci à vous aussi.
Bonne journée tout le monde à Royan et merci de prendre le temps de répondre au micro d'Europe 1. Vous le savez, qui se balade sur tous les marchés de France chaque samedi. Voilà, il y a du zinc, des oligo-éléments, du magnésium. Ce sont les produits de la mer.
Ça sent les embruns.
Brune ou blonde ? La sole.
La sole, moi plutôt brune.
Plutôt brune.
Mais j'aime bien les grandes soles et la sole meunière avec du beurre.
Ah, c'est bon.
Ah, c'est délicieux.
Et les petits seto, c'est délicieux. Hein. C'est des bébés soles, on va dire. Et ça, c'est effectivement du côté de l'île de Léron, on en trouve aussi.
Moi, je suis très macro en ce moment. D'abord, c'est la saison. Et puis, en fait, je les redécouvre. Parce qu'avant, je les mangeais toujours, vous savez, en salade, les filets de maquereau, machin, marinés. Mais frits, en fait, frits à
c'est
la
bon,
poêle fondant, mais c'est merveilleux.
Un bon poisson gras,
mais
un
oui.
poisson bleu avec plein d'oméga 3.
Ça donne de l'énergie.
Et d'oméga 6.
Et qu'on peut manger cru ou cuit d'ailleurs, le maquereau, tout aussi bien. Hein. C'est délicieux des deux manières.
Exactement. Je reviens sur mon goût de la semaine de tout à l'heure. J'ai dit Gémenos, je viens d'y passer 15 jours. C'est Gémenos hein, que les habitants ne nous envahissent pas sur les réseaux sociaux. C'est Gémenos, bien entendu, dans les Bouches-du-Rhône. Allez, on continue à voyager partout en France. On va retourner en Provence dans un instant, justement, pour récolter les capres. Ce petit bouton floral, vous savez, eh bien, il est avec nous. On le récolte en Méditerranée aussi. Il n'y a pas que du côté de l'Italie ou de la Sicile. Il y en a aussi chez nous. Et on revient juste après avec une belle récolte. A tout de suite.
11h30 sur Europe 1. Laurent Bariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Herbacée et acidulée, elle parfume les plats méditerranéens. Elle ne se mange pas crue, mais confite. Elle est féminine, c'est la capre. Alors ça, c'est vrai que c'est un condiment qui ne laisse pas indifférent. On va oublier, hein, les amis, les capres de piètre qualité, vous savez, trop vinaigrés, balancés comme ça sur les pizzas et sur les tartares. Faut goûter une bonne capre hein, pour savoir si on aime ou pas. Capre ou pas capre, Ophélie ?
Ah bah, capre. J'étais pas très capre avant parce qu'effectivement, j'en mangeais des mauvaises. Et puis quand on en goûte des bonnes, on se rend compte que c'est encore mieux que le cornichon. Quoi.
Et quand la saumure est mal faite, elle emporte tout sur le parfum délicat de la capre.
Je suis hyper capre et j'adore ça. J'en mets dans plein de plats. Il n'y a que le dessert dans lequel j'en mets pas pour être honnête, mais j'en mets dans plein de plats parce que je trouve que ça amène de la texture parce que quand elles sont justement bonnes, elles sont croquantes aussi et puis c'est une saveur que j'adore.
C'est subtil et délicat, c'est pas que vinaigré. Alors il y en a au sel, il y en a au vinaigre, bien entendu. On va en récolter en Provence dans un instant.
Quand on les prend au sel, il faut bien les dessaler, oui. Ça c'est le plus important parce que sinon...
Je pense au capre de Salina, c'est une île en Sicile. On parlait de la cuisine sicilienne la semaine dernière. C'est une île sur laquelle j'ai eu de la chance d'aller et qui est vraiment une île dédiée aux capres. Il y a des capriers partout, c'est l'île où ils ont tourné Le Facteur avec Philippe Noiret. Et alors là-bas, on mange des capres à toutes les sauces. Les restaurants font des capres partout. Donc je ne sais pas si vous allez peut-être en vacances du côté des îles éoliennes cet été, ça vaut le coup d'aller à Salina.
Mais oui, parce qu'il faut rappeler quand même que ça vient du bassin méditerranéen. Hein, la capre, ça pousse sur le caprier, comme vous disiez, c'est un petit arbre. Et c'est pour ça qu'on la met si souvent dans des plats méditerranéens.
Ben voilà, et puis ça casse le bon gras des poissons, par exemple. Alors justement, on va aller la récolter en Provence. Un petit peu d'histoire avant sur la capre, Olivier, qui nous accompagne depuis l'Antiquité. Hein.
Ah oui, les Romains déjà avaient compris que c'était délicieux pour relever les sauces, les poissons, les plats. Elle arrive en Provence autour du 6e siècle, introduite par les colons grecs, figurez-vous. Et puis les premières capres confites au vinaigre, on les mentionne à partir du 15e siècle. Elles sont consommées durant la Renaissance. Et puis Olivier de Serres, vous savez, le célèbre agronome, en parle d'ailleurs dans son théâtre d'agriculture et ménage des champs. Il donne tous les conseils de culture, de cueillette. Voilà, et puis les capres se sont bien installés aujourd'hui dans le sud de la France. On trouve de merveilleux capriers.
Eh bien, vous me faites la transition, ben camarade. Voilà. On y va, direction Auriol. Dans les Bouches-du-Rhône, c'est l'ancienne capitale de la capre en France. C'était en 1800, ça ne nous rajeunit pas. Et aujourd'hui en France, c'est vrai que la production n'est plus rentable. Hein. Elle était délocalisée vers les pays du Maghreb. Alors, ils ne sont plus qu'une poignée à produire des capres. Frédéric Michel, le correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est, a rencontré Robin Margier. Il travaille avec ses parents, que je salue, Jean-François et Nelly, dans le domaine de la Michel, au pied de la Sainte-Baume, dans les Bouches-du-Rhône. Alors, que se passe-t-il avant la mise en pot ? Écoutez.
15 juin jusqu'au 15 août, ça va être le gros de la production. Donc chaque semaine, on va passer, ramasser les premiers boutons floraux. Et première étape, ça va être de commencer à les confire au vinaigre. Donc on va garder la capre dans le vinaigre à peu près 6 mois, vinaigre classique. Et après, on va changer ce vinaigre et partir sur une saumure où là, ça va être un peu la recette secrète maison de la maman. Ça va être un petit peu de fenouil, un petit peu d'aromates et tout ce qu'on peut trouver de bon en Provence. Pour une consommation à peu près en mars de l'année prochaine. On le fait plus pour faire vivre un patrimoine que vraiment économiquement, parce qu'on ne peut pas payer quelqu'un à ramasser la capre aujourd'hui. La capre, c'est vraiment la culture rustique par excellence. Ça demande des sols très peu riches, des sols très drainants, donc ça aime le sec, ça va pousser dans les murs. Quasiment pas d'irrigation. Chaque année, on va venir couper à ras, maintenir cette souche à 20 cm du sol pour pouvoir ramasser facilement. La taille parfaite, c'est la capucine, plus petite que l'ongle du petit doigt.
Ah oui, alors c'est vrai qu'on danse la capucine, mais on mange la capucine aussi, Olivier. Il y a plein de tailles dans les capres. Hein.
Oui, oui, alors vous avez les toutes petites capres qu'on appelle les lilliputes, qui font de 1 à 5 mm, il faut bien les regarder. Les non pareils de 6 à 7 mm, et puis ce qu'on appelle les surfines de 7 à 8 mm. Et paraît-il, les meilleures sont les toutes petites, parce qu'elles ont un goût plus concentré, évidemment, plus prononcé.
Celles-ci de la famille Margier, j'ai eu la chance de les déguster. C'est vrai qu'elles sont très fines, très délicates. Ils récoltent 30 kilos par an, donc vous imaginez, c'est une toute petite production. Le pot de 150 grammes est vendu aux alentours de 10 euros, donc c'est un certain prix, mais on n'en met pas partout, on n'en mange pas tout le temps, mais elles sont subtiles, délicates, ça n'a rien à voir avec les capres trop saumurées. Hein.
Mais alors, je ne sais pas, parce que vous parliez de Lilliput, je ne veux pas faire de mauvais enchaînements, mais il y a les capres à queue aussi, c'est quoi
oui,
les capres à queue?
Absolument, mais je suis content de vous l'entendre dire, ce sont de grosses capres, effectivement.
Qui sont encore attachées à leur queue et qu'on croque comme ça à l'apéritif,
et qu'on met sur les tapas, on en met beaucoup sur les tapas en Espagne, des capres à queue, et qui sont très croquants, effectivement.
Ce sont des cornichons de capres, en fait, c'est ça?
Des grosses capres, tout simplement, mais effectivement, bien, bien croquantes.
Alors moi, ce que je fais, vous savez, une boîte de sardines, un peu de concentré de tomates, une poignée de capres dans des pâtes. C'est simplissime, c'est délicieux.
Et dans la tapenade, il y a des capres, hein, les amis.
Elle doit son nom d'ailleurs, tapenade.
Exactement. En occitan, en provençal, tapenade, ça veut dire capre. Donc vous allez, si vous voulez faire une tapenade ce week-end, vous mixez 200 g d'olives noires dénoyautées, 5 filets d'anchois, 30 g de capre dessalé et 5 centilitres d'huile d'olive, du poivre, et là vous avez une belle tapenade pour accompagner vos légumes ou un poisson, par exemple.
Ou tout simplement sur une petite tranche de pain grillé.
Une autre recette avec des capres, Ophélie?
Alors moi, comme Olivier, j'adore les mettre avec des pâtes, mais je mets du ketchup en plus.
Non.
Ça, c'est un peu honteux. Si, si, vous prenez des tomates séchées, mais c'est hyper bon. Tomates séchées, anchois, capres, vous hachez le tout, et vous mettez un petit peu de ketchup, et puis comme ça, toute la famille aime, toutes les générations.
C'est le week-end, les amis, les vacances approchent. Deux bonnes raisons de penser à faire son marché de livres. Eh bien, des romans aux livres de cuisine, on a une belle sélection à croquer, comme les capres. À tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
La semaine dernière, vous avez probablement suivi, on en a parlé sur Europe 1, Emmanuel Macron, accompagné de Fabrice Luchini, a rappelé l'importance de la lecture, hein, une des bases de la citoyenneté, c'est ce qu'ils ont dit. La lecture, tiens, je reprends leurs mots, permet de développer la capacité d'émancipation, de se relier aux autres et de créer une communauté nationale à travers des valeurs communes. Alors évidemment, les livres de cuisine aussi en font partie, on va en parler, mais il y a eu plein de mesures qui ont été prises pour inciter nos concitoyens à lire, Ophélie, Olivier.
Oui, d'abord quelque chose qui nous fait un peu oublier le couvre-feu, c'est d'élargir les horaires de bibliothèques municipales pendant l'été. Et ça, ça va faire du bien, parce qu'effectivement, on sort du travail et on va tout de suite à la bibliothèque prendre des livres. Et puis, il y a aussi le pass culture.
Ah, ça, c'est très bien.
300 euros, pass culture offert à tous les jeunes de 18 ans. Et c'est valable uniquement dans les commerces français. Donc, ça permet de contrecarrer Amazon. Et on a déjà des retours de libraires qui sont heureux de pouvoir vendre des livres en ce moment. Oui, oui, les livres pour l'été se sont bien vendus auprès des étudiants.
Oui, c'est vrai qu'en France, on a la chance d'avoir un beau réseau de librairies, donc il faut vraiment le préserver. Alors, ajoutons à cela l'importance des livres de cuisine pour grand nombre de cuisiniers amateurs que vous êtes, chers auditeurs, probablement, et pour des chefs qui ont eu le goût de la cuisine grâce aux livres. Il est venu plusieurs fois ici nous en parler, je pense à Jean-François Piège, qui a eu l'amour de la cuisine en découpant des recettes.
Et qui a fait un livre extraordinaire sur le patrimoine de la gastronomie française.
Exceptionnel. Alors, on vous a fait une petite sélection de livres à embarquer dans vos valises pour ces vacances. On commence par vous, Ophélie.
Alors moi, je voulais vous parler d'un petit livre, il fait une centaine de pages, hein. Il est très pratique à lire, à emmener dans un sac de plage. Ça s'appelle « Marché libre, Portrait croisé, et c'est écrit par Angélique Delcroix aux éditions de L'Épure. Et pourquoi il m'a plu ? Pas seulement parce qu'il est court, parce que c'est l'histoire d'une maraîchère à Malakoff qui va raconter un petit peu toutes les personnes qu'elle croise. Et il y a beaucoup de choses très drôles à propos des produits. Elle parle notamment des carottes. Alors on a les carottes, elle hésite, les rouges, les noires, les jaunes. Peut-être les noires pour goûter. Ah oui, mais non, si vous les cuisinez, ça va pas. Et elle a cette petite phrase, elle dit les carottes, c'est comme la vie, quoi que tu choisisses, t'es toujours emmerdé. Et puis il y a l'histoire de Michel. Alors Michel, je vais pas vous tout vous raconter, mais Michel, il faut le découvrir parce que il vient faire ses courses et puis alors il va acheter des choses parce qu'il va se faire hospitaliser. Alors il fait plein de courses pour sa femme et puis c'est pas si simple que ça. Et puis on va le voir au fil du livre. Mais voilà, il y a des portraits comme ça de gens qui viennent acheter, de gens qui servent les légumes, des volaillers. J'ai trouvé que c'était très émouvant.
La vie d'un marché, quoi.
Exactement. Et ça rappelle le quotidien. Et je trouve que quand on est en vacances, voir la beauté du quotidien, ça permet de rentrer en septembre en disant je vais retrouver ça.
Mais elle est au marché, la beauté du quotidien. Vous avez raison, Ophélie. Alors on rappelle le titre.
Marché libre, portrait croisé.
Olivier.
On se refait pas un Belge, il vient avec une BD évidemment.
Ah bah oui.
Alors je vous propose Ragoût aux truffes, hein, rien que le titre, moi ça me met en appétit, de Le Billon et Gros Lot aux éditions Fluide Glacial. Alors c'est l'histoire d'une chef qui travaille dans un restaurant étoilé, qui en a un petit peu marre de cette pression et puis de cet environnement, et elle va aller se ressourcer en repartant dans le Lot, se rapprocher de sa famille, lancer un projet là-bas. Je vous garantis que j'ai mon ventre qui gargouille à toutes les pages, à lire quand on a mangé, hein, pas avant, parce que sinon c'est terrible. Et puis j'ai un petit cadeau bonus, L'écume des pâtes à la recherche de la vraie cuisine italienne. C'est un roman, là, pour le coup. Là, on part en Italie et on va aller découvrir ce que sont les cuisines italiennes, parce qu'évidemment, il n'y en a pas qu'une. Il y a plein de choses, il y a des secrets.
L'art de cuire les pâtes, voilà, prenons cet été le temps de recuire les pâtes différemment. On les cuit en deux temps, comme en Italie. Une première pré-cuisson à l'eau bouillante et ensuite, elles vont terminer leur cuisson dans la sauce en rajoutant de l'eau de cuisson. Enfin voilà, c'est tout un art et c'est vrai que c'est la pasta, c'est magique.
Vous avez lu le livre, alors. C'est de Tommaso Melilli et aux éditions Stock.
Ah mais j'adore, c'est des pastas avec les sauces.
Voyager.
Je le redis, hein, c'est pas les pâtes qui font grossir, ce sont les sauces. C'est pas.
Ouais, mais je vais en prendre quand même.
Mais oui, mais moi aussi, on mettrait une belle louche. Alors mon livre, moi, c'est un livre d'Anthony Palou, qui est journaliste culture au Figaro. Ça s'appelle « Dans ma rue, il y avait trois boutiques aux presses de la cité ». Et c'est une ode aux petits commerces, à tous ces petits commerces qui ont jalonné sa vie de son enfance à aujourd'hui. Il s'intéresse notamment à une belle rue parisienne. Si vous êtes en région et que vous venez à Paris, par exemple, cet été, c'est la rue Claire, à côté de la Tour Eiffel, dans le 7e arrondissement, qui est une rue commerçante qui n'est pas donnée parce qu'il y a des échoppes, effectivement. Mais il y a un traiteur qui est là depuis des années, qui s'appelle Davoli, qui est un traiteur italien. Et il en parle, justement, de l'amitié entre les commerces de bouche. Par exemple, le boucher à qui il arrive un pépin, le traiteur vient l'aider. Et il se rend compte aujourd'hui que maintenant, c'est un peu plus chacun pour soi. Donc, ce n'est pas simplement de la nostalgie, mais c'est aussi prendre le parti pris de dire que plein de jeunes aujourd'hui ne sont plus attirés par les métiers de bouche parce que ça fait plus rêver. Le charcutier dit, c'est vrai que moi, après avoir pris trois douches, je continue à être suivi par des chiens qui veulent manger du jambon. Enfin voilà, donc il parle de tout ça, effectivement. C'est très très bien foutu. Ça s'appelle « Dans ma rue, il y avait trois boutiques » d'Anthony Palou aux presses de la Cité. Vous retrouverez évidemment toutes ces références sur europe1.fr, les amis. Et à propos, on va donner la parole à un amoureux des petits commerces aussi. Il est romancier à 16 heures. Il a écrit deux romans chez Flammarion. C'est notre camarade Jean-Luc Petit-Renaud. Et il nous invite justement à prendre la plume pour partager bien plus que des recettes, des moments et des souvenirs. Bien le bonjour, l'ami de la fourchette et de l'encrier.
Eh bien le bonjour les camarades, c'est gentil ce que vous avez dit. C'est marrant d'ailleurs de se dire que par quelques mots on peut confisquer quelques sentiments que l'on a autour de la cuisine. Et l'été s'y prête d'ailleurs parce que l'été on cuisine des choses qu'on n'a pas cuisinées le reste du temps parce qu'on n'avait pas le temps. Eh bien là ça vaut le coup de prendre aussi le temps d'aligner quelques mots derrière ses pensées, derrière ses recettes. Et je trouve ces livres de recettes personnelles extrêmement précieux, ça devient la Bible, son missel. J'ai écrit un livre qui s'appelait « Je cuisine pour vous ». Il y avait mes enfants dedans, c'est le plus important, cuisiner pour ses enfants. Et il y avait notamment les langues de chat pour Antonin. J'avais ajouté toujours, de manière manuscrite, laisser griller, brûler le bord. Parce que Antonin, c'était la première chose, il grignotait avec le bout de ses petites dents, il grignotait le brûlé en premier. Il y avait le riz froid, le riz en salade du dimanche soir pour Louise. Et vous aussi cet été, profitez-en entre deux petits coups de soleil. Prenez le crayon, même maladroitement, peu importe, mais notez une petite impression
quand on la retrouve quelques temps plus tard, c'est plus que délicieux.
Bah évidemment, et puis il faut faire des tâches hein, sur les cahiers de recettes aussi. Et à propos de lecture, eh bien, je vous rappelle que le camarade Jean-Luc Petit-Renaud a écrit Les 4 saisons d'Émile et Marcel, ce sont ses parents, et c'est sorti en poche justement il y a un mois chez J'ai lu. Voilà les amis, comme un bon livre, il fait partie des plaisirs du quotidien. C'est le pain. Un bon pain, c'est d'abord un bon levain. Eh bien, on en parle juste après la pause. Ça va croustiller. Bon week-end, chers amis, avec les bons vivants sur Europe 1. On va parler pain et levain, mais juste avant, on laisse chanter Ray Charles.
My coffee in my favorite cup. That's why I know. Yes, I know. Hallelujah, I just love her so. When I'm in trouble and I have no friend, I know she'll go with me until the end. Everybody asks me how I know. I smile at them and say she told me so. That's why I know. Oh, I know. Hallelujah, I just love her so. Now if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I count from one to four, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me, Daddy, everything's all right. So I know, yes, I know. Hallelujah, I just love her so. Now if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I count from one to four, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me, Daddy, everything's all right. So I know, yes, I know. Hallelujah, I just love her so. Now if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I count from one to four, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me that everything's all right. That's why I know, yes I know. Hallelujah, I just love her so. Oh, hallelujah. Don't you know I just love her so. She's my little woman.
C'était le grand Ray Charles sur Europe 1. Alors, au pays de la baguette, le levain est devenu la clé et le gage d'un pain réussi. Quel est le rôle de cet agent levant naturel? Peut-on faire son propre levain facilement? Eh bien, fermentons tout ça, tiens, avec Valérie Zanon, auteur d'un livre de recettes autour du levain aux éditions alternatives. Bonjour Valérie.
Bonjour Laurent. Bonjour.
Merci d'être avec nous. Nous sommes tous amateurs de levain ici. Hein.
Bah, c'est super.
D'où ça vient cet amour du levain chez vous alors?
Ben, chez moi, ça a été une découverte progressive, puisque je ne suis pas tombée dedans dès mon enfance. Ça a été introduit avec une appétence pour la fermentation qui s'est développée au fil des ans, suite à des petits soucis intestinaux qui me dérangeaient vraiment au quotidien.
Pour bichonner la microbiote alors.
C'est ça, hein, exactement. Et du coup, je me suis tournée vers ce mode d'alimentation. Enfin, ouais. ce procédé plutôt. Et j'ai découvert chaque jour des choses nouvelles. Et du coup, le thème du levain s'est imposé progressivement.
Soyons didactiques, qu'est-ce que c'est que le levain alors?
Alors, le levain, c'est une culture de micro-organismes qui coexistent et qui vivent ensemble dans une harmonie.
Avec deux ingrédients essentiels.
L'eau et la farine.
C'est ça. Et alors, depuis quelques années, le levain revient en grâce. Pour quelles raisons, selon vous, on redécouvre les pains au levain? Pour quelles raisons les boulangers se remettent à faire leur propre levain et à travailler les pains de cette façon-là?
Je pense qu'il y a l'envie de bien manger, tout simplement, qui est à la base de tout. Le fait de privilégier les matières nobles. Donc, il faut savoir que dans la farine, ne serait-ce que dans la farine, on a plusieurs degrés de qualité. Donc je pense que c'est tout un retour aux sources qui se fait aussi dans la gastronomie en général, et le retour aussi à la fermentation longue qui permet donc du coup une meilleure digestion des produits.
On s'était éloigné du levain, hein, Ophélie, quand même. Hein.
Oui, parce qu'effectivement, quand Pasteur a découvert l'univers microbien, on a vu que certaines maladies pouvaient être associées aux microbes. Alors, le levain n'était plus sûr. Aujourd'hui, on adore faire son levain. Il faut essayer de faire son levain. Le problème, c'est que c'est plus fragile qu'un chaton. Quoi. On oublie de le nourrir et paf, ça meurt. Quoi,
on
le
va
levain.
En parler, on va vous dire comment faire. Oui.
Oui et non, parce que je vous avoue que moi, j'en ai un. Et je l'ai depuis
de
des mois.
De chaton ou de levain?
Non, de levain. Je suis en train de manger du pain au levain en même temps. J'en ai, il a plusieurs mois. Et je le rafraîchis 3-4 fois par semaine. Quand j'ai envie de faire du pain, je fais du pain. Et il se porte extrêmement bien. Je l'ai appelé Gérard.
Et Gérard va bien ?
Il va super bien, mon Gérard.
Mais c'est vrai que dans un monde où tout va très vite, on veut que les choses aillent vite, le levain, c'est le temps long, en fait, Valérie. Hein.
Bah, c'est un réapprentissage et puis c'est une réinterprétation du pain et qui nous fait du bien aussi. Je pense que, notamment lors du premier confinement, ça a été l'occasion aussi de se retourner vers ces pratiques et ces processus qui prennent justement du temps. Et qui sont dans un sens aussi rassurants parce qu'on part d'un point A à un point B et on observe toute une transformation de matière, c'est très satisfaisant.
Alors justement, en quelques mots, les grandes étapes pour réussir son levain, parce qu'il faut être patient, ça ne se fait pas en un jour. Hein.
Ça se construit, c'est une matière, comme j'ai dit, vivante, qui est composée de bactéries, de levures, de champignons, qui évolue au fil du temps. Alors,
concrètement,
de l'eau, de la farine qu'on mélange et qu'on vient alimenter jour après jour pendant une moyenne de 6 jours.
Et en général, c'est toujours temps pour temps. Même quantité de farine, même quantité d'eau.
C'est ça, c'est pour question de facilité. Après, on peut modifier les proportions, mais on reste sur du temps pour temps, c'est beaucoup plus simple.
Et on le renouvelle, on le rafraîchit, comme vous dites dans le
livre. On le rafraîchit. Comme j'ai dit encore une fois, c'est une matière vivante qui a besoin de nourriture, d'apport. Donc si on veut qu'il reste vivant et actif, il faut le rafraîchir régulièrement.
Tous les 2-3 jours, vous remettez 50 grammes d'eau, 50 grammes de farine dans le pot, et le pot, vous le laissez au frigo, tranquille, et vous allez voir, il va faire des petites bulles, plop, plop,
c'est
plop,
ça, il gonfle, vivant. Et puis après, il redescend, après il regonfle. C'est très bien expliqué dans votre livre « Le vin » aux éditions alternatives. Alors, chers auditeurs, je me mets à votre place, là, il y a quelque chose que vous ne sentez pas, c'est l'odeur de ce pain au levain qui vient d'arriver dans le studio et qui embaume. C'est déjà ça aussi la force du levain, c'est l'arôme, c'est le goût et c'est le parfum, Valérie oui. Zanon.
Exactement, il faut savoir que donc, dans le pain au levain, qui est composé de levain, on a des enzymes qui se développent et différentes phases fermentaires, donc 3 voies fermentaires. C'est des choses qu'on retrouve en parfumerie.
Alors quand on sent ce pain au levain, tout de suite on sent d'ailleurs que c'est un pain au levain. Il y a un côté presque un peu miel souvent,
oui,
un peu épice
exactement.
Aussi.
Sirop d'érable parfois aussi.
Dans ces pains au levain qui ont du goût et qui ont surtout aussi une acidité, je trouve, un peu plus marquée en bouche, qui est très intéressante.
Tout à fait, puisque les bactéries qui sont présentes dans le levain causent la fermentation lactique et du coup sont responsables de ce petit goût acidulé.
Et il y a des arômes différents en plus entre la croûte et la mie, c'est ça qui est intéressant dans le pain au levain, c'est passionnant. On va en parler aussi du côté de l'intolérance au gluten dans un instant, parce qu'il aurait peut-être justement son mot à dire dans l'histoire. On revient avec le levain de Valérie Zanon et vous allez voir que vous pourrez en faire à la maison. A tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Exhausteur de goût, texturant, meilleur pour la santé. Ce matin, on se lève tous pour le levain. Designeuse et prof d'art plastique, Valérie Zanon consacre son temps libre au levain au point de lui offrir un beau bouquin. Levain aux éditions alternatives. Alors, vous êtes venu nous voir donc avec un très bon pain qui sent très bon. On le disait, il y a des arômes de miel, il y a une croûte qui est effectivement, qui tient bien son nom, qui est dure, qui est croustillante, et une mie qui est alvéolée et moelleuse et parfumée. Il est fait avec quoi ce pain au levain?
Alors, ce pain-là, il est réalisé avec une farine de blé de Khorasan qui se trouve en Iran.
Oui, c'est un blé ancien, ça. Hein,
il fait partie des grains anciens. Il est considéré comme les farines, comme les premières céréales. Qui ont été cultivés au néolithique, donc ça remonte à très longtemps, et qui n'ont pas été modifiés. Donc en fait, c'est un blé qui est très intéressant, puisqu'il est proche du blé dur, Et donc, il offre justement ces saveurs supplémentaires, ce relief particulier.
Avec des arômes très développés. Hein. Quelles sont les grandes règles pour réussir un pain traditionnel à la maison comme celui-ci, comme celui qu'on mange là ?
Alors, la règle fondamentale, c'est le levain. Donc, on a deux temps. Il faut savoir que dans le pain au levain, on a deux temps de pousse qui est vraiment de production qui est incompressible. Il ne faut pas chercher à aller vite quand on fait du pain au levain.
C'est beaucoup plus long. Hein.
C'est beaucoup plus long. C'est une autre méthode de panification. On réapprend la panification au travers de
Mais il y a une récompense. Il y a la récompense du goût et des arômes et de la conservation, comme je le disais avant la pause. Hein,
ça se conserve une semaine. Alors, il ne faut pas faire le pain quand on a faim et qu'on a envie de
c'est
pain.
Hein,
il faut s'y prévoir un petit peu avant. Mais l'atout, c'est ça, c'est que pendant des jours et des jours, il ne durcit pas. Je ne sais pas pourquoi, mais...
On a une capacité...
C'est l'acidité, ça.
Pas seulement, c'est-à-dire que déjà, on a cette croûte qui est conséquente, dont vous avez parlé, et qui vient protéger contre l'évaporation de l'eau. Il faut savoir que la mie conserve une bonne partie de l'eau, mais elle s'évapore très vite quand le pain a une croûte assez fine. Ce qui n'est pas le cas avec le pain au levain.
Alors, ce sont des pains qui sont plus denses aussi, d'ailleurs, moins aériens, les bulles sont plus petites.
Mais très nourrissants.
Mais c'est très nourrissant.
Ça, avec du beurre,
il y a une mâche plus importante.
Exactement, et c'est bien parce qu'on ne mastique plus assez de nos jours, donc ça incite à bien mastiquer, à prendre le temps de manger le pain au levain. Il y a de la mâche, comme vous dites. On parlait de l'intolérance au gluten juste avant la pause. On se rend compte aussi que les pains au levain sont mieux tolérés par les gens qui sont normalement dits intolérants au gluten. Je ne parle pas de la maladie cœliaque, je parle des petites intolérances.
Oui, tout à fait. Puisque vu que le levain agit sur une panification de longue fermentation, on a différentes enzymes qui se mettent en place. On a les amylases, on a les protéases et puis on a la phytase. Et les protéases sont là en fait pour dégrader les protéines de gluten qui sont donc présentes dans le réseau de gluten et qui ne sont pas assez digérées entre guillemets dans les processus rapides et qui causent justement ces inconforts.
Donc c'est bien de manger du pain au levain si on veut éviter de ballonner.
C'est
quoi.
Mieux.
Hein, c'est ça, d'accord. Et qu'est-ce que vous nous avez apporté là ? On dirait un beau brownie au chocolat, c'est ça ?
Tout à fait. Alors c'est une des recettes inattendues du livre, donc le brownie au levain. Inattendu dans le sens où on n'attend pas du tout l'usage du levain dans un brownie.
Oui, dans une pâtisserie, c'est vrai tout que ça marche aussi en pâtisserie, ça marche pas que dans le pain.
Marche,
hein.
Ça marche énormément en pâtisserie et ça apporte notamment, on parlait de la qualité d'exhausteur de goût au début.
C'est très bon.
Ah oui,
il y a une résonance qui se fait avec le chocolat qui est très intéressante.
Ah oui, il y a une petite pointe d'amertume, d'acidité.
C'est ça, d'acidité, qui répond en même temps à l'acidité sous-jacente du chocolat, du cacao.
Il est délicieux, votre brownie.
Ça équilibre beaucoup chaque bouchée. On a le chocolat qui explose et puis derrière, cette acidité qui donne de la longueur, en fait.
Exactement.
Et il n'est pas cuit trop longtemps, il y a un côté coulant. C'est un brownie coulant que vous avez fait.
C'est le plus gourmand.
Combien de temps de cuisson, ça ?
Oh, 20-25 minutes, pas plus.
On va mettre la recette sur europe1.fr qu'on retrouve également dans votre livre aux éditions alternatives.
Et donc... moi, je vous donne une autre petite recette très rapide et très facile avec du levain. Si vous avez la chance d'en avoir, vous l'utilisez pour faire des tempura. Prenez 100 grammes de levain, un œuf, vous mélangez tout ça, vous plongez tout ce que vous voulez là-dedans, vous le jetez dans la friteuse. Au moment où ça remonte, vous avez une pâte à tempura qui est hyper aérienne et vraiment délicieuse.
Ah oui, c'est vrai qu'on rentre dans l'été, on a envie de baigner comme ça, de fleurs de courgettes avec votre pâte à tempura, c'est pas mal.
Parce que là, le levain aussi va donner ce côté aérien et va pas coller justement aux ingrédients.
Je prends Olivier Pouls. Merci Valérie Zanon d'être venue nous éclairer sur le levain. Votre livre, on le retrouve aux éditions alternatives. Et puis vous avez un compte Instagram qui s'appelle Vilain Levain aussi.
Tout à fait.
Il n'est pas vilain le levain. Pourquoi vous l'avez appelé comme ça, votre compte ?
Oh, c'est un petit nom sympa.
C'est ça, c'est un petit anagramme presque.
C'est ça.
Il nous veut du bien. Le vin, voilà. Merci Valérie Zanon.
Merci
pour votre livre. Et on accueille dans un instant alors quelqu'un qu'on est ravi également d'accueillir à cette table. C'est Mohamed Cheikh, vous savez, le vainqueur de Top Chef. Eh bien, il est là, il est en train d'arriver. À tout de suite. Je voulais annoncer, ce matin, il y a du soleil dans votre cuisine. Dans un instant, on reçoit Mohamed Cheikh avec sa belle cuisine méditerranéenne. Et il y a du soleil en musique aussi avec le nouveau titre de Christophe Maé.
La danse qu'on fait quand on ne pense pas.
Il y a du soleil, c'est Christophe Mahé sur Europe 1. C'est l'heure d'accueillir notre invité. Il a triomphé au dernier concours Top Chef. Technicité, sens de l'équipe. À la finale, il a fait une percée dans le dernier quart d'heure à la Mbappé, comme il aime à le dire. Pas le genre à se reposer sur ses lauriers. Il joue les prolongations avec l'ouverture de son restaurant à Paris. Au menu, une cuisine joueuse et ensoleillée. C'est Mohamed Cheikh, notre invité. Bonjour Mohamed.
Bonjour Laurent.
Ravi de vous accueillir avec la bande des bons vivants. Je vous présente Miss Glouglou, Ophélie Neyman pour les intimes.
Bonjour, et je peux vous dire que mes parents seront fiers hein, quand ils vont écouter l'émission. Là, ils doivent bouillir.
Merci, je suis très heureux d'être là.
Comment ça va?
Super, au top.
Après Top Chef, qui est un accélérateur de vie, c'est ce que vous m'avez dit cette semaine quand on a préparé l'émission.
Ouais. Hein, je suis dans un beau rouleau compresseur, mais plutôt positif, donc très content.
Vous m'avez dit une très belle chose, vous m'avez dit « je savais que la vie pouvait changer rapidement, dans le mauvais sens, on pense souvent à ça aussi, mais dans le bon sens, c'est ce qui vous arrive, Mohamed ».
Absolument. J'aurais pas pensé que du jour au lendemain, parce que alors, nous quand on est en tournage, on ne sait pas ce qui nous arrive après, mais une fois que c'est diffusé, j'aurais pas pensé que du jour au lendemain... tout changerait comme ça en positif.
Quand vous n'avez rien vu hein, après votre passage ici, là, c'est encore autre chose qui vous
attend. Je sais bien, hein. Je ne doute pas une seconde.
vous avez travaillé dans des palaces, hein, aux côtés d'Éric Fréchon notamment. Moi, je me souviens avoir goûté votre cuisine quand vous travailliez au drugstore, qui n'est pas un palace, hein, je le dis à nos auditeurs qui nous écoutent en région et qui voudraient venir à Paris, c'est sur les Champs-Élysées au drugstore. Qu'est-ce que vous avez appris dans Top Chef que vous n'aviez pas appris dans ces cuisines auprès de grands chefs, par exemple?
Bah, culinairement parlant, je dirais qu'on n'apprend pas grand-chose. On apprend plus sur sa philosophie de cuisine et de personne. Donc ce que j'ai appris, je dirais, en cuisine, c'est de recentrer finalement les éléments dans les assiettes et pas d'en mettre trop parce que ça sert à rien, de se concentrer vraiment sur les goûts. Et puis moi, ce qui m'a permis aussi, c'est de vraiment chercher à aller plus loin et oser en fait.
Repousser vos limites toujours.
Hein. Exactement.
Et puis vous avez flambé le restaurant, vous qui aimez la cuisine à la flamme, là vous êtes régalé dans Top Chef, on vous a vu avec votre restaurant nomade éphémère hein, que vous aviez mis en place pour l'épreuve. Vous avez mis le feu à la cuisine.
J'étais tellement chaud que la cuisine a pris feu. Quoi.
Quel est votre goût de la semaine, Mohamed?
Alors le goût de la semaine, je dirais que c'est un dessert sur lequel on est en train de travailler donc au restaurant Manzilir éphémère.
Près du Jardin des Plantes à Paris, ouais.
Voilà, ça va être une pêche Melba, mais je dis toujours entre guillemets du futur. On a travaillé dessus, le chef pâtissier, donc ça va être une pêche blanche pochée à la verveine avec un beau granité verveine, une brunoise de fruits frais, citron vert... Et en fait, dès que j'ai mis un coup de cuillère dedans, j'ai eu une émotion. Ah, et oui, donc, on veut partager cette émotion avec nos futurs clients.
Un vrai dessert d'été, ça. Hein.
Exactement, ah, oui, très rafraîchissant.
La fraîcheur et puis le parfum unique de la pêche, en fait.
Exactement,
aussi. Hein. Ouais. Alors, vous ne buvez pas de vin, Mohamed.
Non,
hein, mais ici, vous le savez, on parle de vin. Donc, ça pourra aider vos sommeliers parce que vous avez une
Absolument.
Belle carte des vins dans votre restaurant. Et Ophélie, aujourd'hui, vous mettez en lumière une révolution silencieuse, on va dire, dans le monde du vin. C'est un soulèvement du côté des jeunes amateurs. Ils ne dégustent plus comme leurs aînés.
Oui, c'est ça. Alors si je vous dis Saint-Julien, Pomerol, Gevrey-Chambertin, Corton-Charlemagne, Ermitage, pensez
oui.
à quoi?
Eh ben, je pense à des grands crus.
À des, voilà. bons vins.
À des bons vins.
Ça, ce sont des appellations. Hein. Des appellations, pour être rigoureux, des appellations d'origine contrôlée, des AOC, donc des lieux de production. Eh bien, quelqu'un qui aime le vin, il va spontanément citer une AOC pour le désigner. Il dira « Moi, j'aime les Bandoles, j'aime le Saint-Joseph, j'aime le Crozes-Hermitage ». Si vraiment il s'y connaît, il pourra dire qu'il aime le Crozes-Hermitage, en particulier celui du domaine de Laurent Combier. Mais l'AOC, l'appellation, viendra toujours en premier, en point de référence.
Oui, c'est ce qu'on fait toujours. Et qu'est-ce qui change alors?
Eh bien, l'importance de l'AOC, justement. Attention, elle fait toujours rêver, hein, surtout si elle est prestigieuse. Mais d'abord, elle coûte cher. Et puis, il y a le mouvement des vins nature qui a complètement changé la donne auprès des jeunes. Ils commencent à s'intéresser aux vins, particulièrement aux vins nature. Et alors, les vignerons nature, ils sortent souvent des bouteilles estampillées vin de France, sans AOC. Parce que ce sont des jeunes vignerons qui ont envie de tenter des choses, ou alors ils s'installent sur des appellations viticoles pas très reconnues et ils ne les mettent pas en avant.
Donc c'est vrai que sur l'étiquette, on voit le nom du producteur, mais pas celui de l'AOC, pas celui de l'appellation d'origine contrôlée.
Oui, c'est ça. On boit plus en Languedoc, on boit un Jeff Couteloup, par exemple. On ne dit pas qu'on aime du Tavel, on dit qu'on aime boire du Eric Pfifferling. Mais je peux faire un parallèle avec la musique, hein, pour ceux qui ne boivent pas de vin. On ne dit pas qu'on écoute de la pop, on dit qu'on écoute Ariana Grande ou Lana Del Rey. En fait, c'est que les vignerons, ils sont devenus des stars malgré eux. Alors on retient leur nom. Ils deviennent une référence qui est plus parlante que le terroir sur lequel ils produisent. Ben, c'est un peu comme les chefs de cuisine en fait.
C'est leur univers, effectivement. On veut déguster l'univers et l'histoire d'un vigneron ou d'un chef. Qu'est-ce que vous nous avez apporté là?
Eh bien justement, vous regardez l'étiquette, elle est super belle. Hein. C'est le Château Beauregard Mirouze, c'est Karine et Nicolas Mirouze. C'est la cuvée Sol 2018. Est-ce que vous voyez une appellation sur cette... sur cette bouteille.
Non, pas du tout.
Elle en a une. Si vous regardez derrière, vraiment en tout petit, c'est marqué Corbière. Mmh. Et Corbière, bon, bah, c'est une belle appellation, mais vous voyez comme elle se fait discrète. Elle s'efface devant le nom du vin et celui du domaine. Et alors ça, c'est un mélange de Syrah, de Mourvèdre. Il faut le laisser s'ouvrir. Il est très nature. Je crois qu'il a le label d'ailleurs vin méthode nature. Il est en bio.
Mais il est bien.
Mais une fois qu'il est ouvert, hein, vous voyez derrière comme ça vibre.
Ça combien ça ?
Poivre légèrement.
Ça poivre les ça coûte 18 euros. On est quand même, attention, on est quand même sur un tout grand vin. C'est une belle bouteille.
Vous servez des vins nature dans votre restaurant, Mohamed. Hein,
oui, oui.
Et c'est... vous servez des cocktails aussi. Hein.
Absolument. Et les cocktails marchent mieux que le vin d'ailleurs. C'est... Et les sans alcool même.
Et ça, c'est... Oui, vous avez plein de cocktails sans alcool. Et vous avez des cocktails. Moi, j'ai démarré avec un petit cocktail au bourbon pour démarrer mon repas. Eh bien, j'avais pris. Oui, mais ne regardez pas comme ça, Olivier Pouls. Et c'était très bien. Et ça s'accordait très bien. Vous m'avez fait un poulet avec votre panure qui est croustillante, incroyable. Racontez-nous ce poulet que vous faites au restaurant, Mohamed.
Alors, c'est un suprême de volaille jaune des Landes.
Ouais.
Voilà, pour être fidèle à Ayanda Rose.
Votre mentor, votre maman, vous l'appeliez comme ça dans Top Chef,
voilà, ouais. C'est ça. Donc ouais, un filet de volaille jaune des Landes, donc on fait mariner avec du yaourt grec, de la poudre d'ail, du paprika fumé, du jus de citron pendant 12 heures. Et le lendemain, donc on le panne dans une chapelure à l'anglaise classique, sauf qu'on remplace le pain par du cornflakes.
Ah. Ouais.
Voilà. Ensuite, on le frit pendant 6 minutes, on le laisse tirer un petit peu pour qu'il finisse la cuisson lui tout seul.
Et tirer, ensuite, c'est prendre l'inertie de la chaleur qui se développe. Hein,
exactement. Voilà. Donc, comme on dit, le temps de repos est égal au temps de cuisson.
Il est très croustillant, ce poulet. Ce que j'aime dans votre cuisine, c'est qu'elle est franche. Elle vous ressemble, elle est ensoleillée, joyeuse et franche. Quand c'est croustillant, c'est pas moi, moitié croustillant, moitié mou. C'est croustillant, franchement. Quand il y a de l'harissa dans la sauce qui vient relever, eh bien, on la sent, l'harissa. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans votre restaurant aussi, c'est que c'est transgénérationnel, multigénérationnel, c'est-à-dire que beaucoup de parents viennent avec leurs enfants vous voir et goûter votre cuisine. Ouais. C'est assez touchant, ça.
Ouais, c'est honorable pour moi parce que ça devient en fait un lieu de vie, un lieu de rencontre, et comme vous dites, intergénérationnel et puis cosmopolite aussi. Et
oui.
Ça me représente très bien, je trouve que. Et c'est la fierté en fait, de voir que je touche en fait, un public vraiment très différent.
Et vous appuyez sur la cuisine méditerranéenne qui est vraiment très large, hein, de la Grèce à la Turquie, en passant même par le Maghreb. Il y a plein de belles choses. On va en parler justement parce que vous êtes venu avec un plat du jour de compétition. Il aime griller, flamber, jouer avec le feu. Mohamed Cheikh est en place pour le plat du jour. On revient après les titres du journal de la mi-journée de Fabienne Lemoyle. Bon samedi midi et bonne cuisine, hein, si vous êtes en train de la faire. Vous écoutez Europe 1, il est midi. Les titres d'Europe Midi, Fabienne Lemoyle. Bonjour Fabienne.
Bonjour Laurent, bonjour à tous. À la une du journal de la mi-journée, ça y est, c'est le jour J pour le départ du Tour de France 2021. Et que la fête commence avec cette fois le public au rendez-vous au bord de la route, mais des restrictions sanitaires qui restent de vigueur pour les départs et les arrivées où il faudra un pass sanitaire. Nous rejoindrons à Brest Axel May pour cette première étape de 197 km entre Brest et Landerneau. Pourquoi pas un Français comme Julien Alaphilippe en jaune ce soir. On posera la question au régional de l'étape, quintuple vainqueur du Tour de France et surtout dernier vainqueur français de la Grande Boucle en 1985, Bernard Hinault, qui sera mon invité alors que la Bretagne va accueillir 4 étapes de ce Tour. Un peu moins de 2000 nouveaux cas de Covid enregistrés hier en France. Pour autant, la vigilance reste de mise. En témoigne l'alerte cette semaine dans les Landes avec la propagation du variant Delta qui représente désormais 70% des nouveaux cas dans ce département. Et une nouvelle alerte, cette fois, dans le département voisin du Gers, avec 2 premiers décès liés à ce variant et le lancement d'une grande campagne de tests et de vaccination, nous expliquera Théo Manval. Nous reviendrons aussi sur le procès de Valérie Bacot, ressorti libre hier soir du palais de justice de Chalon-sur-Saône, libre mais condamné à 4 ans de prison, dont 3 avec sursis, pour avoir tué celui sous lequel elle était sous l'emprise depuis des années et qui la forçait à se prostituer. Décryptage de ce verdict avec Ernest Renet, responsable de l'Observatoire de Seine-Saint-Denis des violences envers les femmes. La météo avec un temps maussade dans l'ouest et dans le nord, mais grand beau dans le sud-est, nous dira Valérie Darmon. Et puis vous le savez, à 13h, on poursuit cette tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Gros plan sur 2 procès, celui de l'affaire Kulik et de l'affaire Troadec, et coup de projecteur sur la formidable exposition consacrée à Simone Veil à l'Hôtel de Ville à Paris.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
12h02, je vous laisse en compagnie de Laurent Mariotte.
Et on joue toujours l'accord aussi local en fonction de la provenance du saucisson.
Ferme les yeux, c'était de la poésie. Aïe.
Mais c'est délicieux.
Il y a un petit goût de date, je trouve.
Exactement. Hein, il fait un peu confit.
Europe 1, 11h, 12h30. J'ai une passion pour les frites.
Ah, bah bienvenue
j'adore
au club.
J'adore
ah,
oui, les frites. La table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Ah, nous aussi, on aime bien les frites. Hein. Nous revoilà avec notre invité, Mohamed Cheikh, gagnant de Top Chef 2021 sur M6. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Et puis merci d'être avec nous depuis 11h si vous êtes des fidèles. Je vous rappelle que vous trouverez toute la première partie hein, en écoutant le podcast sur Europe 1. Nous
et sommes la deuxième partie aussi.
Et la deuxième...
On coupe pas au milieu. Hein.
Et la deuxième partie, l'émission entière, faut être précis. Nous sommes avec Mohamed Cheikh qui vient d'ouvrir un restaurant éphémère qui s'appelle Manzini à côté du Jardin des Plantes. C'est rare dans l'histoire de Top Chef, Mohamed, un chef qui ouvre dès la fin de la diffusion son restaurant.
Ouais, absolument. En fait, je savais pas trop comment la situation sanitaire allait se passer. Et je me suis dit, eh ben, alors déjà, il fallait que je retrouve du boulot parce que quand même, on est fait pour ce métier, il faut qu'on continue à faire ce qu'on
faut
fait.
Il faut travailler, oui.
Voilà. Et je me suis dit, voilà, je ne vais pas aller lancer un truc dans le dur sans savoir où je vais parce que je sais que j'ai des amis qui ont vécu des choses très compliquées. Et je me suis dit, bah, tiens, ça peut être sympa d'avoir un restaurant à gros volume, dans un bel endroit estival. Et donc, finalement, c'est bien tombé et ça fonctionne plutôt très bien.
Ça fonctionne même très bien. Et on va le dire à nos auditeurs qui vont avoir envie de venir chez vous. Il y a une petite liste d'attente. Il faut attendre un petit peu quand même. Hein.
Absolument. Voilà.
Vous êtes ouvert jusqu'à quand, là ?
Jusqu'au 3 octobre.
Jusqu'au 3 octobre.
Donc, on a de quoi faire quand même. Quoi.
D'accord. Et après ?
Après, je ne sais pas. Je vais signer un joli livre de cuisine qui sera prévu pour le printemps 2022. Et après, je vais faire un peu de petits partenariats par-ci par-là. Avec des restaurants ou des endroits événementiels. Mais je vais sûrement travailler sur un autre projet de restaurant sur Paris et je suis encore en train de réfléchir sur quel axe.
Peut-être avec le groupe qui vous soutient, là, qui est le groupe Bertrand.
Absolument, ah, absolument. Voilà. On est fidèles à ceux qui nous soutiennent, donc on va voir comment ça se passe.
Vous avez emballé le jury tout au long de la saison avec vos sauces. D'où vous vient cet amour des sauces, Mohamed ?
En fait, je dirais que c'est là où j'ai le plus d'instinct, une espèce de fibre qui se passe quand je fais un jus ou une sauce et... Pour moi, de toute manière, c'est ce que disent tous les grands chefs, il n'y a pas de plat sans sauce. Et donc, quand j'ai compris ça, je me suis dit qu'il fallait d'abord réfléchir à la sauce avant de réfléchir au plat. Et j'ai travaillé tout au long de ma carrière avec des grands chefs sauciers, notamment Eric Fréchon, Yannick Aleno, Alain Ducasse. Et donc, j'ai déjà appris la base de ça. Et après, j'ai cherché à aller plus loin. Et c'est quelque chose qui me passionne et qui m'inspire beaucoup.
D'où vient cet amour de la cuisine alors ? Parce que vous avez grandi dans votre famille à Fontenay-sous-Bois, vous n'étiez pas prédestiné à la cuisine, on va dire, au début. Mais elle a toujours été présente dès le plus jeune âge quand même. Hein.
Bien sûr. Bah, j'ai toujours été un grand gourmand, donc ça, on n'enlèvera pas. Et je pense que c'était naturellement prévu. J'ai été beaucoup avec ma grand-mère tout au long de mon enfance et ma jeunesse, que mes parents travaillaient beaucoup. Et il est vrai que je partageais beaucoup de moments culinaires. Souvent, ça commençait par éplucher les pommes de terre. Après, elle me disait, tiens, goûte la chorba, qu'est-ce que t'en penses ? Ça manque de sel, ça manque de poivre. Et je me suis pris au jeu. Et petit à petit, voilà, je lui disais, ah, j'aimerais bien que tu me fasses ton tagine aux boulettes et courgettes, j'adore. Et j'aimerais bien même qu'on le fasse ensemble. Et
voilà, la transmission.
Et petit à petit, voilà. Et j'ai vécu aussi, j'avais la maman d'un meilleur ami qui faisait un poulet aux herbes. À l'époque, je me rappelle, je m'en allais chez elle le midi. Je sentais déjà des émotions, en fait, très tôt dans la nourriture. Et je me suis dit, en fait, c'est ce métier que je veux faire, quoi.
Alors, vous êtes venu avec le plat du jour. Il est là, il vient d'entrer dans le studio Coluche. Vous l'avez apporté.
Ça sent bon.
Directement. Oui, ça sent très très bon. Expliquez-nous ce que c'est. C'est avec un végétal qu'on peut tous trouver en ce moment.
Voilà. Alors, c'est un plat végétarien. Donc, on est sur un tzatziki de concombre, donc classique à la menthe, avec du chou-fleur frit, avec une vinaigrette au ras el hanout, des pistaches de Sicile torréfiées, une huile de menthe fraîche. Et un petit peu de coriandre fraîche par-dessus.
C'est bon ça. Voilà. Mmh. Et d'où vient cette idée de frire le chou-fleur comme ça ?
Alors ça, l'idée de frire le chou-fleur, ma mère en fait le faisait beaucoup quand j'étais gamin. Elle trempait dans une espèce de panure avec des œufs.
Ouais.
Elle faisait des grosses sommités comme ça qu'elle faisait frire. Et voilà, je me suis un peu inspiré de ça, mais sans les œufs, j'aime pas trop les œufs. Et donc après, voilà, on s'est amusé. Le ras el hanout, c'est une épice qui m'a apporté loin, donc je continue à l'utiliser. Quoi.
C'est un mélange d'épices, effectivement, que vous avez beaucoup utilisé dans Top Chef. Hein. Ça veut dire la tête de la boutique en arabe, hein, je crois. Hein,
la
c'est
tête
ça.
De l'épicier.
La tête de l'épicier, voilà. Ouais. C'est le meilleur de l'épicerie. Il y a une vingtaine d'épices dans le ras el hanout.
Ouais, exactement,
hein.
Ouais.
C'est absolument délicieux. Quel voyage de saveurs. On a du contraste de texture, on a l'acidité avec le citron, on a le ras el hanout qui vient réveiller tout ça. J'adore cet équilibre.
Et vous, le viandard, bravo. Vous n'êtes pas en manque de viande rouge, là ?
Non, la côte de bœuf ne me manque pas tout de suite.
Non, mais ce qui est amusant et intéressant, c'est que la texture de votre chou-fleur, Mohamed, elle remplace la mâche, justement, d'une viande qu'on
Bien
pourrait
sûr.
Avoir. J'imagine
Bien
que
sûr.
C'est pour ça que vous le travaillez de cette façon.
Exactement.
Parlons le chou-fleur, il est préparez comment? Comment vous le vous faites pour le frire?
Alors, ce qu'on fait, c'est qu'en termes culinaires, on appelle ça blanchir. Donc, on fait des petites sommités à cru, qu'on précuit dans une eau salée et qu'on refroidit dans de la glace. On les éponge bien. Et ensuite, on les frit naturellement comme ça dans une huile à friture.
Sans rien mettre dessus.
Sans rien mettre dessus. Et une fois qu'ils sortent de friture, vous savez, quand ça sort de friture, c'est là où ça absorbe le maximum de saveur. Et donc, c'est là où on met la vinaigrette vraiment pour que ça absorbe bien les goûts. Et c'est vrai que, voilà, il faut y penser de plus en plus, de manger du végétal. Et quand on met des gros morceaux et qu'on joue sur les textures, ça peut faire un plat sans viande ou sans poisson.
C'est très très réussi, on le mange évidemment dans votre restaurant près du jardin des plantes. Qu'est-ce qu'on boit avec ça, tiens, Ophélie, Olivier?
Moi, toutes ces saveurs un peu épicées, ça m'évoque des vins évidemment du Sud. On va en parler dans un instant. Pourquoi pas un vin rosé de caractère? J'ai peut-être sous la main ce qu'il nous faudra.
Ah, pour votre chronique de tout à l'heure.
Oui, je pense que ça devrait bien fonctionner.
C'est un bon teasing.
Mais moi, j'aimerais bien un blanc avec un peu de tendresse et d'épices. Et je vais revenir sur mon Alsace de cœur, mais un Gewürztraminer, par exemple, qui va avoir ce petit côté épicé ou même un peu de pinot gris, avec un tout petit peu de sucre pour justement... Pas trop. Il ne faut pas qu'il soit doux. Hein. Il faut vraiment qu'il soit encore sec, mais avec un tout petit peu de quoi dompter les épices et puis s'acoquiner avec elles et faire quelque chose d'assez sensuel. Parce que c'est superbe, hein, merci.
Merci à vous.
Un demi-sec ou un demi-doux, comme dit De Funès dans le grand restaurant. Alors, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait après avoir fait la cuisine et après avoir bien travaillé?
La sieste?
Non, faut nettoyer. c'est ce qu'il faut faire, Mohamed. Hein,
on aimerait bien
faire la sieste. C'est pas encore l'heure, bientôt. Hein, faut nettoyer, faut ranger.
Il faut nettoyer, c'est le moment le plus compliqué. Exactement.
C'est ça.
Voilà, c'est ça.
C'est ce que vous mettez pour vous donner du cœur à l'ouvrage quand vous avez fini le service.
C'est
en
pour
fait.
Garder la touche un peu humour et agréable, même si c'est compliqué.
C'est ça, exactement. Et ben voilà, on va finir avant de nettoyer et de ranger. Et on revient dans un instant avec Mohamed Cheikh, le vainqueur de Top Chef sur M6. Et il y aura les 2 minutes du vin d'Olivier Pouls. A tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Après avoir cueilli les capres, croqué le pain au levain, on en pince pour le chou-fleur frit de Mohamed Cheikh, qui est notre invité, le vainqueur de Top Chef. Et en vous parlant, j'ai un petit goût de coriandre sur ce chou-fleur frit avec du ras el hanout, avec ce tzatziki de concombre. C'est une de vos plantes fétiches, la coriandre. Hein.
Absolument, j'adore ça. En fait, moi, j'adore la cuisine du monde et j'adore beaucoup la cuisine aussi de l'Asie du Sud. Et ils utilisent aussi énormément la coriandre. Au Maghreb, on en utilise beaucoup, donc forcément, on l'utilise dans pratiquement tous mes plats.
Dans une partie du globe, on l'appelle le persil arabe et dans l'autre, le persil chinois. Quoi.
Exactement.
Donc, c'est vrai que ça plaît à tout le monde, la coriandre. Je voudrais qu'on revienne sur votre parcours, Mohamed. Ouais. Votre parcours avant Top Chef, vous avez grandi avec votre famille à Fontenay-sous-Bois, c'est ça? Est-ce que vous aviez envie de devenir chef quand vous étiez enfant?
Oui. En fait, je me rappelle à l'époque quand on faisait, c'était très tôt, je crois que c'était en 6e, et on avait fait un espèce de moment avec la professeure de français qui nous donnait des idées pour plus tard, et elle nous demandait ce qu'on aurait aimé faire plus tard, et j'avais déjà dit que je voulais être cuisinier. J'étais passionné par la nourriture, passionné par les éléments, et à l'époque, il y avait une émission notamment avec Cyril Lignac, qui m'avait marqué l'émission Oui Chef.
Absolument, qui a fait connaître Cyril. Oui.
Voilà, il était jeune et le format de l'émission m'avait beaucoup touché et je m'étais en fait retrouvé là-dedans. Et puis plus tous les reportages un peu plus sérieux qu'on avait à l'époque avec Paul Bocuse, Paix à son âme, etc. Où je voyais tous les grands chefs avec les toques, les tours de cou, quelque chose de bien carré, bien ficelé. J'avais beaucoup aimé.
Ça vous faisait rêver, mais ça n'a pas été facile d'accéder justement à l'univers de la cuisine, même pour l'apprentissage, racontez-nous alors. Ouais.
Alors moi j'ai fait un BEP, donc déjà à l'époque quand on faisait un BEP en cuisine, c'était un peu dernière roue du carrosse, en mode va là-bas, t'es un peu bête, va faire ça. Et donc moi j'ai fait un petit lycée dans le 94, parce qu'on n'avait pas les moyens de se payer une belle école. Et en fait quand je cherchais un stage, donc non rémunéré, je me suis pris des portes et des portes dans la tronche, parce que forcément moi j'avais compris que pour grandir il fallait aller chercher les meilleurs établissements. Donc j'avais une pile de CV, j'avais fait tous les palaces, tous les gastros de Paris. Et personne qui voulait de moi, et je commençais à me démotiver jusqu'au jour où je vois sur le journal L'Hôtellerie Restauration, à l'époque c'était en papier, recherche commis de cuisine au restaurant Sandérins. Donc je les appelle, je me dis...
Grande table parisienne, Lucas Carton.
Exactement. Et je me dis, s'ils cherchent un commis, ils cherchent forcément un stagiaire. Donc j'appelle, c'était Jérôme Banquetel, le chef à l'époque, et il me dit, si vous êtes motivé, vous venez cet après-midi. Donc je me change, costume, etc. Je fonce, j'y vais, et puis il s'est passé quelque chose entre lui et moi, et c'est à partir de là où ça a commencé.
Et on peut même dire aussi que vous, d'origine algérienne, vous avez eu affaire quand même à des remarques très malveillantes aussi en cuisine quand même, parce qu'il y a eu ça, il faut qu'on en parle de ça aussi, ça n'a pas été facile de ce côté-là non plus.
Non, mais à l'époque, aujourd'hui ça a changé, tant mieux. À l'époque, c'est ce que je dis, et c'est que quand on était différent, quand on était coloré, ou qu'on venait de banlieue, qu'on était une femme, ou qu'on était gros, et ben en cuisine, on n'avait pas sa place.
Ça a changé.
Aujourd'hui, c'est différent. On accepte tout le monde. Il y a de plus en plus de femmes dans les cuisines. Il y a des chefs asiatiques, maghrébins, africains noirs. Et ça, c'est bien parce que ça représente vraiment ce métier. Ça représente ce qu'on a dans l'assiette.
Quelque et c'est chose la cuisine. De, voilà, la cuisine est rassembleuse, voyageuse, exactement. Métissée. C'est ce qu'on aime dans la cuisine.
Sans métissage, partout, ouais. Pas de cuisine. La cuisine, bien c'est sûr. Le produit du mélange de toutes les civilisations et de toutes les époques.
Absolument.
Sans ce mélange, qu'est-ce qu'on mangerait ?
Alors, vous avez pris la parole, gardez-la. Tiens, c'est l'heure de vos deux minutes du vin, cher Olivier Pouls. L'été approche, les terrasses, les barbecues, ça sent bon le rosé. Le rosé, on peut carrément le dire à nos auditeurs, il peut aussi avoir des ambitions gastronomiques, Olivier. Hein.
Ben oui, vous savez, c'est une couleur de vin qui a vraiment le vin en poupe depuis quelques années. Les ventes de rosé explosent, mais c'est vrai qu'il a une image pas toujours terrible. D'un peu de sous-vin. Bon, il faut dire qu'il ne l'a pas volé de temps en temps.
C'est galvaudé.
Il y a des kilomètres quand même de rosé qui se ressemblent tous, avec, vous savez, ce petit arôme de pamplemousse, sans couleur et puis sans longueur en bouche et sans intérêt. Mais franchement, je peux vous dire qu'il existe aussi des rosés qui ont de l'ambition et qui surtout sont des compagnons de table pour la gastronomie.
Ah, ça nous a des noms. On veut des noms, des exemples. Alors,
C'est vrai que le sud du pays demeure une terre de production de rosé majeure. Alors, on pourrait parler par exemple de l'appellation Bandol, où il y a quelques rosés absolument magnifiques qui vieillissent bien. Là, je vous ai apporté un rosé de Tavel. Alors, Tavel, c'est le sud de la Vallée du Rhône, et c'est une appellation qui a une particularité, c'est qu'on ne produit que du rosé à Tavel. Alors, c'est un rosé, vous le voyez tout de suite.
Il est très foncé.
Ah, il ressemble presque à du vin
rouge.
C'est
dingue. C'est la première fois que je vois un rosé aussi foncé. Ouais.
C'est ça. On dirait le rosé d'Hérissé, qui est un rosé de champagne.
Oui,
il y a un rouge de champagne.
Oui, il y a vraiment une couleur. Alors, évidemment, on voit au travers, c'est pas du vin rouge. Mais surtout, regardez, vous le prenez en bouche, il y a du corps, il y a de la structure. Oui. Alors, ça, c'est en plus une très belle expression de Tavel. C'est les grillons. Signé Nicolas Renaud. C'est absolument délicieux. Et surtout, c'est un rosé qui, derrière, a du ressort et du potentiel de garde. Parce que le rosé, habituellement, on l'achète, on le boit, et il vaut mieux d'ailleurs pas en oublier quelques bouteilles dans sa cave, parce que quand on le ressort l'été d'après, on a des mauvaises surprises. Mais celui-là, je vous garantis que sur 3, 4, 5 ans, vous allez avoir une complexification des arômes qui va être absolument passionnante. Et puis, je reviens à votre plat de tout à l'heure.
Le chou-fleur frit avec
Je suggérerais un rosé du Sud. Ophélie, Laurent, qu'est-ce que vous pensez de l'accord avec mon petit Tavel?
Ça marche bien.
Ça marche super bien. Bah, c'est impeccable.
On achète, effectivement.
Et on ne l'a même pas fait exprès.
Hein. Est-ce qu'on peut faire vieillir ces rosés gastronomiques?
Alors, pas 20 ans, mais moi j'ai goûté des rosés qui avaient une dizaine d'années, notamment de Tavel ou de Bandol, ou même d'autres appellations du Sud dans lesquelles on fait des très bons rosés. Et ça donne des choses assez surprenantes. Il va évoluer dans un profil souvent qui va rappeler davantage les vins blancs que les vins rouges. Pas à Tavel, parce que là, on a quand même une structure et du corps, on a ce côté très fraise, très fruit, on est proche et on va garder ces dimensions en prenant un petit peu plus de confit.
C'est cher ?
Alors, oui, enfin cher, oui et non, il faut quand même compter entre 12 et 15 euros pour un vrai beau rosé de gastronomie, mais une fois encore, le rosé ne doit pas être un sous-vin et faire un bon vin, ça coûte un petit peu d'argent, donc du rosé à 3-4 euros, c'est souvent pas très bon, mettez un tout petit peu plus, buvez-en peut-être un petit peu moins, mais vous aurez, à mon avis, un plaisir qui sera différent.
Eh ben merci Olivier, on mettra les références sur europe1.fr et puis on retrouve vos conseils évidemment aussi dans la revue du vin de France. Mohamed Cheikh est avec nous jusqu'à midi et demi, on va le passer sur le grill des bons vivants, lui qui aime les barbecues. Lui qui aime la flamme, qui aime le charbon de bois, eh bien on va découvrir ses nombreux coups de fourchette de son enfance à aujourd'hui. Bonne cuisine encore, hein, si vous êtes en train de la faire. C'est la table des bons vivants et on est ensemble jusqu'à midi et demi.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Dernière partie de la tablée avec Mohamed Cheikh qui est au restaurant Manzili hein, jusqu'en octobre. C'est un restaurant éphémère à côté du Jardin des Plantes. Donc vous qui êtes parisien ou vous qui allez venir à Paris pendant les vacances, eh bien voilà, ça fait partie des tables ensoleillées, voyageuses, qui font du bien. Et je le disais, hein, Mohamed, je suis venu déjeuner chez vous cette semaine.
Oui.
J'ai été frappé par ça, par les parents qui viennent déjeuner avec leurs enfants et qui passent un joli moment d'échange autour de votre cuisine méditerranéenne, en fait.
Oui, c'est vrai que oui, les gens viennent passer un moment en famille et ça représente très bien les valeurs aussi que je veux véhiculer, de prendre soin de ses parents, de rester proche avec sa famille. Et puis moi, je dis toujours que quand on est en cuisine, on est les artisans du bonheur. Et moi, quand je sors en salle et que je vois des familles heureuses passer un bon moment, et ben
Et oui, aujourd'hui où tous les goûts sont dans la nature, je ne parle même pas des allergies ou des tendances véganes, ce n'est pas toujours facile de rassembler les parents et les enfants. Et c'est vrai que cette cuisine méditerranéenne, eh bien, elle est rassembleuse. Hein. Oui. Je voudrais qu'on vous fasse écouter un extrait. C'est vous, dans Top Chef, à propos d'un ingrédient que vous n'aimez pas du tout. Et je vais vous demander si ça a changé juste après. Il est question de lait, je crois.
Ouais. Le lait, j'ai horreur de ça, ça me dégoûte comme jamais.
Faut goûter.
Et on part avec un désavantage de cuisiner quelque chose qu'on n'aime pas. Vraiment, ça me dégoûte, mais un point comme c'est pas possible, quoi.
Ah ! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous n'aimez pas le lait ?
Non, j'ai horreur de ça. En fait, c'est un élément que j'utilise pour cuisiner. Mais pour moi, ça va être comme un vinaigre ou comme une huile. Ça se boit pas comme ça, quoi. J'ai horreur de ça.
Et vous arrivez à le cuisiner, quand même ?
Ah bah oui, il le faut. De toute façon, ça fait partie intégrante de beaucoup de recettes.
Hein. Non, mais en plus, dans l'émission, il y avait beaucoup de peau de lait. Il y a beaucoup de gens qui ont fait de la peau de lait. Et je peux vous dire que moi, derrière l'écran, j'étais quand même super gênée parce que la peau de lait, ça me rappelle tous les cauchemars de mon enfance, quoi. Ouais. Donc, c'est dur. C'était dur.
Oui, quand on est enfant, j'en ai fait partie, en plus. Je l'ai fait aussi, mais...
Mais oui, je sais.
Il y en a qui adorent ça, la peau du lait. Moi, c'est pareil. Je peux pas manger ça.
C'est en vieillissant. Moi, j'aimais pas enfant, mais quand on est plus... C'est comme la peau du poulet aussi. C'est un petit peu pareil.
Ah bah, je préfère la peau du poulet.
Il faut qu'elle soit bien croustillante.
Oui, mais ça, je la mange.
On est d'accord, Mohamed. Vous confirmez. Votre marraine dans l'émission était Hélène Darroze. Ça n'avait pas forcément bien commencé au départ. Hein.
Alors, je ne dirais pas que ça n'a pas bien commencé. Je dirais qu'au début...
Vous êtes cherché.
Ouais, voilà. C'est un peu ça. C'était un peu... je t'aime moi non plus. On ne savait pas trop comment se parler. Et moi, c'est ce que je lui ai dit plusieurs fois en rigolant. Je lui ai dit, mais quand vous me regardez, j'ai l'impression de faire de la merde. Je ne sais pas ce que vous voulez me dire à travers ce regard. Et donc, je me braquais. Et donc, elle sentait que je me braquais. Donc, c'était un peu une situation un peu bizarre. Et au fur et à mesure des épisodes, on a commencé à s'apprécier, à rigoler. Et puis quand elle a commencé à voir aussi que voilà, je savais où j'allais, mais que j'étais venu aussi pour profiter du moment. Parce que je pense que, on ne me l'a pas dit, mais je pense que ce qui a dérangé, c'est que je m'amusais beaucoup trop.
Oui, oui, voilà. Vous mettiez le beans, comme on dit, dans la cuisine. Vous voilà. Amusiez. Vous avez besoin de ça, j'imagine, pour vous concentrer. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, en fait, pour créer, non ?
Ouais, c'est un peu ça. En fait, moi, je déborde d'énergie, je ne tiens pas en place. Et sur Top Chef, c'est concentration de stress. Et donc, pour évacuer mon stress, il n'y avait pas d'autre moyen que de m'exprimer, finalement. Et puis, j'étais tellement heureux de faire partie de ce concours et cette émission que je l'ai laissé paraître, quoi.
Alors, vous nous l'avez dit, vous préparez un livre. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce livre ? Alors, il sortira mi-2022.
Ouais. Alors, ce qui est drôle, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages et beaucoup de personnes qui m'ont demandé, en fait, d'avoir des recettes que j'ai pu faire dans Top Chef ou que je fais au restaurant. Donc, je pense que je vais rester sur la lignée et faire un restaurant axé sur les produits méditerranéens et sur les plats.
Un livre, vous voulez dire ?
Oui, pardon.
Et vous allez faire un restaurant aussi, ça y est, il nous l'a dit, ça va être un restaurant axé sur les...
Exactement.
Il a balancé, ça y est, on sait, ça va être un restaurant... Ben non, on se doute bien que vous n'allez pas faire un restaurant norvégien quand même.
Non, mais après, je suis cuisine du monde, hein. J'aime beaucoup la cuisine asiatique aussi, mais... Voilà, on va essayer de jouer un petit peu de tout ça et on va voir ce que ça va nous mener.
Et ben voilà, donc on vous tiendra au courant, évidemment. Faut toujours finir sur une note sucrée, c'est bientôt la fin de l'émission. C'est quoi votre douceur préférée ?
J'en ai beaucoup.
On m'a parlé d'un flan, moi.
Le flan, ça varie, m'a fait beaucoup d'émotions il n'y a pas longtemps. Ouais, j'aime énormément la tarte infiniment vanille de Pierre Armé. J'aime beaucoup la glace aussi, les moelleux au chocolat. Enfin, tout ce qui est sucré, vraiment, j'adore. Hein. J'ai des petits péchés mignons de partout, quoi.
Allez, on continue à vous découvrir de l'autre côté de la fourchette, Mohamed Cheikh. C'est l'heure de passer sur le grill des bons vivants. Quel est le goût de votre enfance, Mohamed ?
Eh ben, le goût de mon enfance, ça va être, je dirais, la chorba. Voilà. La chorba, qui est une soupe traditionnelle algérienne. C'est un des premiers plats que j'ai mangé qui m'a procuré une émotion.
Avec du bœuf ?
Avec de l'agneau.
Avec de l'agneau.
Avec de l'agneau, ouais. Et beaucoup de coriandre fraîche et beaucoup de goût. Et c'est une soupe que j'adore manger. Tout au long de l'année, notamment pendant le Ramadan.
Le premier plat que vous avez cuisiné, Mohamed ?
Le premier plat, alors moi, quand j'ai commencé la cuisine, j'étais un fan de gratin dauphinois. Voilà, j'en faisais tous les jours pratiquement à la maison.
Il y a du lait là, hein ?
Il y a du lait, ouais.
Ou de la crème.
Ouais.
Les deux ?
Les deux, ouais.
Les deux. Et je cherchais vraiment à faire le meilleur gratin dauphinois.
Sans fromage, hein ?
Sans fromage.
Ah bah oui, le vrai.
Sans fromage, avec des petits carrés de beurre par-dessus pour faire gratiner.
C'est ça, c'est beau ça. Votre plus beau repas, Mohamed ?
C'était chez Monsieur Sandérins, parce que quand j'ai fini mon stage, le chef m'a dit qu'il n'avait jamais vu un stagiaire aussi motivé que moi. Et pour me remercier, eh ben, il m'avait dédicacé un de ses bouquins et il m'avait invité à manger à deux au restaurant. Donc quand on a 16 ans et qu'on commence la cuisine et qu'on nous invite dans un 2 étoiles, Ouais. Première expérience, ça m'avait marqué.
Il a longtemps eu 3 étoiles, Alain Sandrin.
Oui,
nos plus grands chefs.
Ouais, absolument.
C'était
précurseur de la cuisine française aussi. Ouais.
Et un des rois des accords mésévins.
Ouais. Absolument.
Bel adoubement. Votre pire repas ?
Mon pire repas, je dirais que c'était lors d'un voyage, en vacances plutôt, à la Grande Motte avec, en famille. C'était une petite pizzeria, en fait. Et moi, j'avais commandé, on était 2 ou 3 à avoir commandé des pizzas. Et le reste de ma famille avait pris viande ou poisson. Et en fait, les plats sont arrivés en désordonnée. Et donc, je dis au mec, attends, mais on veut manger en même temps. Il dit, oui, mais moi, la station pizza, elle est séparée de la station cuisson, donc je vous envoie pas tout. Attendez, mais vous êtes malade. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et en plus, c'était pas bon.
Ah ben voilà. Voilà. Et quel est le plat que vous auriez aimé inventer ?
Les sushis.
Ah ouais.
Ouais, c'est tout bête, mais il fallait y penser. Et c'est un de mes plats préférés. Et quand on voit au Japon que les sushiman mettent 10 ans à travailler le riz avant de commencer à toucher le poisson, c'est vraiment quelque chose de très très fort.
Qui sont les invités de votre dîner idéal, Mohamed ?
Ah, ça c'est une très bonne question que je me pose jamais en vrai, parce que j'aime beaucoup Zinedine Zidane. Pour moi, c'est un bel exemple aussi de réussite et quelqu'un qui m'a marqué dans ma jeunesse. Après, voilà, vous savez, moi je suis quelqu'un de généreux, peu importe avec qui je suis assis.
Une belle tablée, quoi.
Ouais, ouais, voilà.
Pour qui avez-vous été le plus fier de cuisiner ?
Alors, on continue dans le football, ce sera David Beckham.
Ah ouais ?
David Beckham, je me suis occupé de l'anniversaire de son fils, qui avait 7 ans à l'époque au Royal Monceau. Et en fait, c'était un après-midi où j'étais en mise en place. Et le chef exécutif, j'étais seul dans la cuisine, j'étais un peu en galère. Je suis resté au lieu de partir en coupure. Il me dit, j'ai besoin de toi, tout ça, il y a la famille Beckham, il faut que tu m'aides. Et donc, je suis sorti, j'ai passé un super beau moment avec eux et vraiment un très beau souvenir.
Et vous lui aviez fait quoi ?
Eh ben, j'ai contribué à... En fait, on lui a fait un petit cocktail avec plein de petites tapas, etc. J'ai découpé le gâteau d'anniversaire et on a pris soin d'eux. Et je me rappelle en plus à l'époque, ce qui était dingue, quand on est jeune, on adore ça, ils avaient joué à FIFA en fait dans le cinéma du Royal Monceau. Et si vous voulez m'asseoir avec eux, mais j'avais pas le droit. Donc.
Votre bande originale pour cuisiner, Mohamed Cheikh ?
J'aime beaucoup Christine of the Queen, la chanson Christine. Voilà, je me déhanche aussi sur la musique. Je trouve ça, il y a une bonne vibes.
Ouais, c'est bien sympa, ça. Ouais. 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 Et pour terminer, le mot de la fin, F-A-I-M.
Eh bien, je dirais, n'oubliez pas de vous faire plaisir.
Eh bien, vous nous avez fait plaisir, voilà. Mohamed. Merci d'être venu à la table des bons vivants.
Merci à vous.
Et
merci.
On vous retrouve à Manzili, votre restaurant éphémère du côté du Jardin des Plantes jusqu'au mois d'octobre et après l'ouverture d'un autre lieu autour de votre belle cuisine méditerranéenne à Paris, probablement.
Oui, pour l'instant, on va rester à Paris. Ouais. On va rester à Paris, c'est ici qu'il y a l'effervescence, hein, donc on va y rester. Quoi.
Ah, Jean-Luc Arbel nous a remis la musique, faut qu'on range et faut qu'on nettoie, c'est ça, comme Mohamed après le service. Bon, on va ranger, on va nettoyer le Sudo Coluche. On se retrouve la semaine prochaine ici. Merci Miss Glouglou, Ophélie Neyman. Merci Olivier Pouls.
Merci, bonne semaine les amis.
Merci à toute ma bande de m'avoir aidé à préparer cette émission. Lucille Escourou à la rédaction en chef, Alice Fosse, Marion Sauveur, Julien Amat à la rédaction, Agnès Vaudin à la programmation et Jean-Luc Arblade à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine. Salut Mohamed,
merci
d'être venu infiniment. C'était un bonheur. Et bonne cuisine et faites le marché de la cuisine, c'est le week-end. Salut tout le monde, dans un instant, c'est Fabienne Lemoyle sur Europe 1.